La Maison des journalistes a été créée en France par des journalistes pour des journalistes qui avaient dû quitter des pays où l'exercice de leur profession les mettait en danger. La Maison des journalistes offre donc à ces journalistes réfugiés politiques un toit et du soutien à leur arrivée en France. Depuis 2006, cette même Maison des journalistes a mis en place l'opération Renvoyé spécial, menée conjointement avec le CLEMI ou Centre pour l'éducation aux médias et à la formation. Renvoyé spécial, ce sont des rencontres entre des journalistes exilés et des lycéens partout en France. Radio Vassivière a été invitée avec d'autres médias à assister le 6 décembre dernier à la rencontre de lycéens de première, option sciences économiques et sociales, avec Makaïla Ngebla, journaliste tchadien, au lycée Eugène Jameau d'Aubusson. L'occasion pour ces lycéens d'approfondir leurs connaissances géopolitiques d'un seul coup incarnées. L'occasion aussi pour des journalistes français de découvrir une autre réalité de ce métier.
Et plusieurs journalistes ont dû quitter le Tchad pour s'exiler à l'étranger, en Allemagne. Moi qui suis en France, d'autres à Genève, etc. Et à l'heure où je vous parle, la situation est extrêmement inquiétante et que les journalistes subissent quand même la pression forte du pouvoir en place. Donc ils sont obligés de se taire, de ne pas trop aborder le sujet. Quand même, par exemple, l'armée tchadienne, il est impossible à ce qu'un journaliste traite la question de l'armée tchadienne, qui est une armée complètement acquise au présent débit et qui n'a rien répressif. Le journaliste tchadien ne peut pas traiter aussi de la gestion frauduleuse des ressources du pétrole tchadien par le clan débit, par la famille débit et la mauvaise gestion. Dès que vous traitez cette question, vous pouvez être quand même inquiété par la justice tchadienne, donc une justice instrumentalisée. Donc le journaliste vit dans la terreur, la peur et l'angoisse permanente. Donc exercer librement le métier du journaliste aujourd'hui au Tchad n'est pas d'actualité.
Et les journalistes sont nombreux au Tchad ?
Ils sont dans, oui, ils sont nombreux, bien sûr. Il y a la presse privée, la presse publique, et il y a des médias communautaires, donc des radios communautaires, comme vous en parlez tout à l'heure. Mais bon, toujours est-il que récemment, il y avait une radio communautaire dont le journaliste a été arrêté pendant quelques semaines avant d'être libéré. La radio a été fermée par le préfet. Donc ça peut vous dire qu'effectivement l'arbitraire est total.
C'est-à-dire que là-bas au Tchad, il faut faire un peu, ça vous rappelle un peu le régime Ben Ali en Tunisie. C'est que les journalistes ne peuvent pas, ceux qui sont dans le public ne peuvent pas critiquer le public. Il y a une ligne éditoriale qui est consensuelle. Et ceux qui sont dans le privé, s'ils critiquent le pouvoir, sont appelés à être en pluton. Donc c'est que les journalistes, comme on le dit en tunisien, c'est des gens qui préservent leur pain. Au Tchad, c'est un peu ça.
Le cas de la dictature, c'est une dictature classique,
c'est
en fait.
Ça, classique.
Et vous parliez de la Tunisie, donc, à peu près pareil.
Oui, mais le niveau du Tchad est un peu plus grave que la Tunisie, parce que le Tchad est un niveau tel qu'on n'en parle pas seulement, les médias internationaux parlent rarement du Tchad. On présente le Tchad.
On parle plus de la Tunisie.
La Tunisie, c'est la proximité.
Un délire, quoi.
Voilà. Et donc, le cas tchadien est un cas vraiment dramatique. Il y a des alternances qui se font, alternances politiques qui se font dans des pays voisins. Par exemple, là, en Gambie, il y a eu une alternance démocratique. Mais au Tchad, ça fait 26 ans qu'il n'y a pas possibilité d'aller de renverser le pouvoir par les urnes, etc. Donc, l'espace politique évolué par un régime totalement autocratique, autoritaire, et qui continue à réprimer l'absence des manifestés pacifiquement dans le pays. Donc c'est vraiment une redoutable dictature qui se passe dans le pays dans un silence total, quoi.
Dans ce cadre-là, les radios communautaires, elles ont quel rôle? Et il y en a beaucoup et...
Justement, la difficulté principale au Tchad, c'est qu'on a pensé avoir beaucoup de radios communautaires qui pourront sensibiliser les populations locales dans les régions les plus reculées. Mais la difficulté est que quand vous êtes une radio communautaire dans une région du Tchad, vous êtes forcément intimidé par le gouverneur, par les préfets, par les forces de l'ordre. Donc comment débattre des thématiques en lien avec la démocratie? Ça veut dire que si un journaliste invite un intervenant pour débattre de la question des droits de l'homme, des questions de liberté, et que si l'intervenant essaie de critiquer la gestion du gouvernement, la gestion de la préfecture, ou bien du préfet, ou bien de là-bas, en fait, de l'officier qui est en charge, ce journaliste peut être inquiété. Et même l'intervenant invité peut être aussi inquiété. Et donc, du coup, les médias communautaires, c'est ça, en fait, le défi principal. C'est que nous avons pensé depuis toujours qu'il faut massifier les médias communautaires dans des pays comme le Tchad qui peuvent jouer leur rôle de démocratisation de la société tchadienne. Mais là encore, ça reste un défi. C'est pourquoi il faut, si on veut vraiment réellement parler de la démocratie, de bonne gouvernance, il faut absolument l'émergence dans un pays de multiples radios communautaires qui vont jouer leur partition dans la sensibilisation de population sur les questions des droits de l'homme, des libertés, de la bonne gouvernance et les droits civiques et politiques. Mais ce n'est pas le cas au Tchad.
Et avec Internet, on en est où ?
Internet est régulièrement coupé. Internet, oui, hein, Internet a été coupé en avril dernier.
En avril,
parce qu'en pleine élection présidentielle, Internet a été coupé, le pays a été isolé pendant de 4 mois, d'avril à nos jours, 4 mois sur la scène internationale. Donc les réseaux sociaux ont été coupés. Donc en fait, c'est les pratiques qui rappellent un peu les pratiques Ben Ali, qui rappellent un peu les pratiques en Russie et en Chine. On est régulièrement en fait isolé sur la scène. Donc, c'était vraiment inquiétant.
Et je suis désolée, je vais vous couper, parce qu'il va falloir qu'on monte en haut pour accueillir les élèves là, à la fin de la récré d'ici quelques minutes.
2, 4, 6, 8. Qui est absent? Agathe.
Agathe. Moi, je m'appelle Makeila Ngebla. Je suis parti d'abord en Tunisie pour des raisons d'études où j'ai fait d'abord l'administration commerciale. Et à partir de la Tunisie, j'ai vu que la situation au Tchad est complètement bloquée. Et donc je faisais des billets dans l'hebdomadaire Jeune Afrique pour sensibiliser effectivement l'international sur ce qui se passe au Tchad. Et donc en 2005, le gouvernement du Tchad avait demandé à la Tunisie de m'expulser du territoire tunisien parce qu'ils ont estimé qu'en étant étudiant, je faisais des activités à caractère politique qui dénonçait la nature du régime du Tchad. Donc arrivé au Sénégal, j'ai essayé de demander l'asile politique au Sénégal. La première année, ils me l'ont refusé. La deuxième année, ils me l'ont refusé. Finalement, j'ai fait une licence en communication journaliste à Dakar. En même temps, je présentais une émission radio sur la question migratoire. Mais j'ai été successivement le correspondant de deux sites d'information, l'un en France et l'autre au Canada. Le premier site en France s'appelle Alvida. Et le deuxième, c'est un site qui est basé au Canada qui s'appelle Tchad Press, donc pour les enfants du Tchad. Et après les deux sites, j'ai quitté les deux sites pour créer mon propre blog, envie d'avoir une marge quand même de liberté, parce que quand vous êtes dans un site avec une équipe rédactionnelle, vous êtes soumis à une ligne éditoriale. Donc moi, j'ai créé mon propre site pour pouvoir quand même m'exprimer en toute liberté d'expression. Et donc cela a commencé de 2007 jusqu'en 2013. J'ai quelques vidéos à vous présenter qui peuvent vous permettre de voir les témoignages, la mobilisation en Afrique. Et puis après, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis devenu effectivement en fait la cible du régime du Tchad qui est dirigé depuis 26 ans par M. Idriss Déby.
Makeila Ngebla, journaliste, blogueur tchadien et militant des droits de l'homme, a été expulsée du Sénégal. Une expulsion survenue après sa participation à une émission sur les ondes de la radio privée sénégalaise Sud FM. Convoqué mardi dernier par la direction de la surveillance territoriale, il a été ensuite expulsé dans la soirée à destination de Conakry.
Je n'ai pas vu dans l'émission, peut-être que vous pouvez l'écouter, c'est une émission qui dure une heure de temps, je n'ai pas vu une seule phrase ou bien un seul mot politique ou autre qui est susceptible d'être une raison d'interpellation, d'arrestation et aller jusqu'à expulser un citoyen tchadien qui, il faut le dire, est au Sénégal depuis 2005.
Cette expulsion fait suite au récent séjour à Dakar du ministre tchadien de la Justice venu signer un accord de partenariat judiciaire dans le cadre des préparatifs du procès des Hussein Après au Sénégal. Une décision contestée par les associations de défense des droits de l'homme basées au Sénégal. Selon eux, l'État du Sénégal tente ainsi de réduire au silence les réfugiés et les demandeurs d'asile qui critiquent les gouvernements de leur pays d'origine.
Nous sommes profondément indignés et nous sommes très très surpris par la tournure des choses parce que c'est hier matin qu'il a été convoqué et le soir il a été expulsé malheureusement vers la Guinée. Sans aucun respect de ses droits, sans aucun respect de la procédure. Vraiment, en matière d'expulsion, il y a une procédure des étrangers, une procédure qui doit être respectée.
Les associations de défense des droits de l'homme ont déjà saisi un avocat pour défendre les intérêts du journaliste blogueur Kadian, arrivé au Sénégal en 2005.
En 2013, vous avez vu la première vidéo, elle montre carrément le ministre tchadien de la justice qui était venu dans un cadre d'accord de partenariat judiciaire avec le Sénégal. Et sur place, il a demandé au président du Sénégal de m'arrêter et de m'expulser du territoire sénégalais. Mais sur place, il y a une forte résistance, notamment de la société civile sénégalaise, mais aussi à l'international, des organisations comme Reporters sans frontières, mais aussi comme Amnesty International, qui se sont mobilisées pour demander au Sénégal de ne pas me renvoyer vers le Tchad. Le problème est très simple. C'est que pour le Tchad, il n'est pas du tout normal que déjà les journalistes qui sont localement basés et qui travaillent sur place, qui sont intimidés régulièrement, moi j'ai choisi d'être à l'étranger pour quand même influer sur le cours des événements à partir de l'étranger. Et figurez-vous, même à l'étranger, le mouvement tchadien tellement qu'il est fort, il peut même aller demander votre extradition, votre retour dans votre pays d'origine. On m'a convoqué au niveau de la DST. La DST, c'est la direction de surveillance du territoire du Sénégal. J'arrive sur place. On me confisque mes deux téléphones portables, il me fait comprendre que je suis en état d'arrestation et ils me soumettent dans un interrogatoire qui a duré de 9h30 à 15h, où on m'a demandé sur le contenu de mon blog, pourquoi je me suis engagé à critiquer le Tchad, etc. Le gouvernement du Sénégal voulait m'envoyer au Mali. Pourquoi le Mali? C'est là où je vais en venir. C'est qu'en 2012-2013, vous savez, figurez-vous que l'armée française était intervenue au Mali pour aider les Maliens. Et donc l'armée française a fait recours à l'armée tchadienne. L'armée tchadienne est considérée en Afrique comme une armée redoutable et qui est capable d'aller dans les grottes au même titre que l'armée française pour aider les troupes françaises à lutter contre le groupe djihadiste qui ont occupé le Nord. Et moi, je me suis, dans l'émission que j'avais réalisée avec ces journalistes de Sud FM, c'est une grande émission qui s'appelle Perspective, c'est une grande émission qui est écoutée, j'ai essayé d'expliquer aux Sénégalais et aux Africains qu'on ne peut pas libérer le peuple malien en ayant pour recours l'armée tchadienne. Pourquoi l'armée tchadienne? Pourquoi j'estime que l'armée tchadienne, c'est la même armée qui réprime la population tchadienne. C'est la même armée qui a verrouillé complètement l'espace des libertés aux populations tchadiennes. Cette armée ne doit pas aller au Mali pour aider ou bien être aux côtés de l'armée française qui est une armée républicaine et une armée qui est respectueuse. Et donc ça, cette intervention n'a pas plu d'abord aux Sénégalais parce qu'ils n'ont pas trouvé que je reste au Sénégal et m'exprimer de cette manière. Et de deux, j'ai commencé à faire comprendre à l'opinion mondiale qu'il se passe quelque chose de chasse au Tchad et quelque chose assez inquiétant, il faut que les gens se mobilisent. Donc une des raisons qui ont fait que le gouvernement tchadien a demandé mon expulsion du territoire, c'est que je puisse être renvoyé vers le Mali. Alors, sur place, il y a une résistance de la société civile, comme vous avez vu les témoignages des différentes personnes, les journalistes, les gens de la société civile. La société civile, si vous connaissez, c'est les organisations qui sont dans un pays et qui s'immobilisent, c'est les questions des droits de l'homme, c'est les questions des libertés, etc. Et ces organisations ont d'abord dénoncé pourquoi on m'arrête, parce qu'ils trouvent que c'est pas normal qu'on arrête quelqu'un qui est là et qui puisse être renvoyé vers son pays d'origine où ma vie était en danger. Et c'est comme ça que j'ai été expulsé du territoire, notamment mais vers la Guinée-Conakry, qui est un pays voisin du Sénégal. Et c'est pour vous dire que la situation, notamment mon parcours est un parcours particulier, comme beaucoup de parcours des journalistes dans le monde, qui sont persécutés et souvent qui n'arrivent pas à s'exprimer, tout simplement parce qu'ils s'est battu pour une guerre universelle, qui est la liberté d'expression, qui est les droits de l'homme, qui est aussi la démocratie. Aujourd'hui, dans un certain pays, que ce soit en Afrique ou bien en Asie, vous avez vu à travers les médias, c'est que les journalistes sont devenus subitement la cible des régimes autocratiques, des groupes armés, etc. etc. Donc c'est une réelle menace qui pèse non seulement sur les journalistes qui sont en rédaction, mais aussi sur les journalistes qui sont en reportage sur place, etc. Et donc c'est comme ça que moi je suis arrivé en France en 2013 au regard de la mobilisation internationale, etc. etc. La France a décidé de m'accueillir parce que la France, en quelque sorte, elle est aussi un partenaire historique du Tchad. On est des colonies françaises et en plus la France entretient un rapport très très avancé avec le pouvoir en place au Tchad. Donc il y a deux situations qui se présentent. La première, c'est que pour Paris, on est ami à Idriss Déby. Mais aussi, on est un pays des droits de l'homme, il faut accueillir, m'accueillir. C'est comme ça que la France a décidé de m'accueillir en 2013. Et depuis 2013, je suis en France, où je continue à animer mon blog. Je continue aussi à animer des conférences avec des structures comme la Fondation Gabriel Péri sur la question, notamment en lien avec la démocratie, etc. Je continue aussi à intervenir dans les médias français et les médias comme TV5 pour expliquer effectivement la situation du Tchad, les questions des disparitions d'opposants, la question d'élections libres et transparentes dans ces pays, etc. Donc la situation, ma situation se résume un peu comme ça. Et puis je continue autrement à venir effectivement à travers cette opération envoyée spéciale, rencontrer des élèves et surtout les sensibiliser sur cette question qui est une question importante et pourquoi la France accueille les journalistes, parce que tout simplement aujourd'hui dans le monde on ne peut pas parler de la démocratie, on ne peut pas parler d'instabilité ou bien de bonne gouvernance sans tenir compte de l'exercice libre du métier de journaliste. Aujourd'hui, donc, les journalistes que vous avez vus, même à Paris, où l'année dernière, en 2015, la Charlie Hebdo était complètement décimée parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent qu'il faut éteindre la voix du journaliste. Or, en éteignant la voix du journaliste, ça veut dire qu'on éteint complètement effectivement, la démocratie. Et donc, nous militons non seulement pour cet acquis universel, cet acquis qui, en France, est un acquis considérable, mais qui est transgressé ailleurs, mais qui, aujourd'hui, si on ne se mobilise pas, si on ne s'oppose pas, effectivement, à des groupes obscurantistes qui veulent absolument faire éteindre la voix des journalistes. Je pense qu'il va aussi de l'intérêt des populations, de l'intérêt de vous qui êtes appelés tôt ou tard à être des décideurs politiques en France ou bien autres, de prendre en considération l'enjeu lié à la liberté d'expression qui garantit la stabilité, la paix, la bonne gouvernance, la cohésion, le vivre ensemble, etc. Donc voilà ce que je peux dire en termes de présentation et je pense que je suis à votre disposition. S'il y a des questions, des questions, je suis prêt à vous répondre.
Par exemple, votre famille au Tchad, est-ce qu'elle est...
Famille biologique, ma famille, ma mère, oui. Mes parents.
Est-ce qu'ils ils ont une pression par les autorités
Oui, bien sûr, la pression, c'est normal. Parce que la pression, elle a commencé, c'est quand je commençais d'abord dans un premier temps, depuis la Tunisie. En 2005, quand j'étais expulsé de la Tunisie, parce qu'avant, je suis arrivé, il n'y avait pas Internet en fait. Avant, il y avait Jeune Afrique, qui était un grand journal basé à Paris, qui est connu en Afrique. Donc, chaque semaine, je voyais publier des billets de 500 signes, donc un petit truc sur les questions qui me paraissent importantes, notamment la bourse d'études au Tchad, la bourse d'études est attribuée souvent à des gens proches du pouvoir. C'est que vous, si votre papa il est directeur et proche du pouvoir en place, vous avez accès à une bourse pour aller étudier à l'étranger. Donc, ce n'est pas donné aux enfants des pauvres qui sont en France. On donne la bourse d'études en fonction des mérites. En fait, vous avez une meilleure note dans un lycée appelé le bac et que vous êtes destiné à faire des études supérieures aux États-Unis, etc. On vient au Canada, on vous donne une bourse. Au Tchad, ce n'est pas les critères qui déterminent. Au Tchad, c'est un critère lié à l'allégeance, je dirais, de vos parents à un pouvoir qui est pas là. Voilà, quoi. Donc, c'est ça. Qui est légitime. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé non seulement à penser à moi, je pensais aussi aux autres Tchadiens. Donc, je commençais à écrire de temps en temps un billet à Jeune Afrique. Déjà, à cette période, on m'a privé d'abord de mon passeport. En 2005, j'avais mon passeport tchadien, de la Tunisie. On m'a expulsé au Sénégal, j'avais mon passeport. Après, une fois au Sénégal, ce passeport était expiré. Quand mes parents ont voulu renouveler le passeport, ils ont vu que mon nom était fiché dans les services d'enseignement tchadien. Cette personne il ne doit pas avoir son passeport, ne doit pas avoir sa carte d'identité. Donc, je me suis retrouvé dans une situation, ce qu'on appelle l'apatride. L'apatride, c'est quelqu'un qui est dans un pays et qui n'a pas, qui n'est pas reconnu par son pays d'origine, qui ne lui donne pas ses pièces d'identité. Et le pays d'accueil qui t'a accueilli aussi ne te donne pas une certaine légitimité. Donc tu te retrouves dans une situation, en fait, ni les citoyens de ces pays d'accueil, ni ton pays d'origine. Donc la pression a commencé sur ma famille d'abord, qui n'est pas instruite d'ailleurs. Et toute personne qui tentait de demander à m'établir un passeport ou bien une carte d'identité nationale tchadienne, cette personne a peur quand même. Donc du coup, l'impression des gens ne venaient pas, les voisins ne pouvaient pas visiter mes parents, mais surtout ma mère qui était encore vivante. Et donc mes sœurs étaient complètement ostracisées dans la société. En fait, que les gens ne visitaient pas régulièrement notre famille parce qu'on pensait que par rapport à ma prise de position à l'international, et surtout que les médias en parlent, donc les gens évitaient un peu cela. Donc il y a une pression qui a duré, et qui s'est renforcée en 2013. De nouveau, quand j'étais expulsé, c'est encore les médias ont commencé à en parler de cette situation. Et à travers mon blog, les gens, à chaque fois qu'on fait au Tchad, à l'époque, le blog n'a pas été censuré. Donc les gens ont régulièrement visité mon blog. Et ils rapportaient l'information dans les quartiers, le blog de Makaïla a dit ça. Donc quand même, je suis devenu une personne qui a un peu informé les Tchadiens de l'étranger, suite à des informations que les gens... Donc après mon expulsion, ils ont censuré le blog au Tchad. Pour entrer dans mon blog, il faut utiliser des moyens technologiques, les VPN, etc., sans qu'en fait contourner la censure. Donc la pression, ma famille a vécu la pression, elle continue à vivre cette pression jusqu'à maintenant. Donc,
Et monsieur, oui. En tant qu'analyste politique, par rapport à la situation actuelle du Tchad, vous attendiez un changement radical ?
Nous, on a souhaité toujours avoir un changement radical. Aujourd'hui, la situation au Tchad est devenue très complexe. Les présidents tchadiens, il a réussi à prendre en otage, non seulement les Tchadiens, mais il a aussi réussi à prendre en otage la France. La France, ou surtout Hollande, le président français, pense que M. Déby, s'il part du pouvoir, ça va être du bordel comme en Libye, excusez-moi du terme, comme en Libye. En Libye, c'est qu'en fait, les groupes armés ont réussi quand même à éclater les pays. Et Déby, en ayant une armée qui est complètement composée de sa famille, de son clan, il a réussi à terroriser les Tchadiens. Mais le mouvement français pense que pour faire la démocratie dans un pays comme le Tchad, Déby ne va pas quitter comme ça par les voies des hommes, par une élection libre et transparente. Les gens ne veulent pas de lui à Paris. Les gens ne veulent pas dire la vérité aussi. M. Déby, en disant que s'il t'en va, ça va être le bordel. Donc il a réussi à prendre en otage. Donc nous, on ne voulait pas de la violence. Les gens voulaient, surtout les acteurs politiques, voulaient une élection libre et transparente. Donc l'élection libre a eu lieu en avril dernier. Idriss Déby a été battu par les urnes, mais il n'a pas voulu partir. Donc il a ce qu'on appelle la CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante, ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Vous avez aussi en France. Donc le Conseil constitutionnel, ils ont complètement inversé les rapports, le possible rebours en faveur du président Déby. Donc les votes, les élections, ce qu'on appelle en termes l'alternance démocratique, comme tu l'as dit, le changement pacifique, ça se passe dans d'autres pays, sauf au Tchad. Donc nous, on est inquiets et on souhaite que ça se passe de manière la plus paisible possible, mais on a affaire à quelqu'un qui n'est pas prêt quand même à laisser les pouvoirs par les urnes et l'option armée, c'est une option dangereuse, quoi. On pense à votre. Mais Si la France peut aider, la France et l'Union européenne peuvent aider, on est d'accord. Votre prof.
Oui, j'avais levé la main. Du coup, est-ce que vous venez de dire que, par exemple, la France aurait un peu peur, enfin, selon votre analyse, par exemple, qu'au Tchad, si le président s'en va d'un seul coup, ça risque d'être un peu chaotique.
Absolument.
Et donc le Tchad, selon vous, joue là-dessus en disant attention, parce que si moi je me fais, si le pouvoir part, ça va être n'importe quoi. Est-ce que c'est un peu, on dit qu'il se passe un peu la même chose en Syrie, au sens où, par exemple, Bachar al-Assad a laissé des groupes djihadistes se développer en Syrie pour justement dire attention, si je m'en vais, ça va être très compliqué. Et est-ce que du coup au Tchad, on a cette situation aussi où des groupes, des mouvements djihadistes se sont développer, et est-ce que le pouvoir les a laissés se développer?
Au Tchad, la particularité du Tchad, c'est que M. Déby, lui-même, il est malin. Vous savez, c'est quelqu'un qui a été formé en France. Et c'est la France qui l'a porté au pouvoir en 90 contre un président qui s'appelait Sénabré. Et donc, une fois arrivé au place, à un moment donné, quand il a vu venir le printemps arabe avec la Tunisie qui a balayé les gens par la rue, la population était sortie, etc., l'Égypte, la Libye, qu'est-ce que Déby a fait? Il a complètement changé le discours. Il dit, écoutez, il dit aux Français et aux Européens, regardez ce qui s'est passé en Libye, c'est vous qui êtes à l'origine de ce qui se passe. Si moi, vous me faites partie, et sachant bien que l'armée, les généraux français, c'est eux qui ont formé les généraux tchadiens, c'est eux qui ont formé l'armée tchadienne, ils savent très bien la force de frappe de l'armée tchadienne, Déby, juste ce discours. Récemment, il était à Dakar, l'année dernière, en 2014, lors d'un sommet sur la sécurité. En plein sommet, il fait comprendre à Jean-Yves Le Drian, ce qui se passait, vous avez fait partir Kadhafi sans assurer le service après-vente. C'est que nous ne sommes pas, nous, Africains. En plus, il y a un discours très dangereux. Il faut comprendre aux Occidentaux que nous, Africains, ils se mettent dans la bulle d'un Africain, pan-africaniste, pour dire que vous avez fait chasser Kadhafi, voilà, regardez les conséquences de ce qui se passe. Et donc là, un discours qui tient, en fait, sur le continent africain, et certains Africains pensent que, ah, mais voilà, regardez ce qu'ils ont fait, donc Déby peut rester. Et surtout que lui, il a aussi aidé les troupes françaises au Mali. Il continue à les aider au Nigeria face au Boko Haram. Donc Boko Haram, justement, c'est pour nous dire aussi, c'est possible. Si Bachar al-Assad a réussi à instrumentaliser le groupe armé djihadiste en Syrie, Déby s'en est inspiré pour effectivement, contrairement, il fait monter la surenchère en soutenant des groupes djihadistes comme Boko Haram, etc. Et de l'autre côté, il crée un conflit en Centrafrique, le pays voisin du Tchad. Et donc, toute la sous-région devient une sous-région instable. Et comme ça, à Paris, on a des difficultés pour voir clair la situation
du changement politique au Tchad. Donc au même titre que Bachar Assad, il est plus fort que Déby. Il a réussi à avoir les Russes, les Chinois et ça autour de lui. Donc il a marginalisé, il a dit, je dirais, mis à minorité la position occidentale, dont la France, les États-Unis, qui sont dépassés face à la situation. Bien que ça fait 5 ans aujourd'hui en Syrie, on n'arrive pas à se défaire de Bachar Assad. Les groupes armés se sont proliférés, les pro-Assad sont restés quand même inamovibles. Au même titre que des gens, des groupes militaires qui sont donc du coup, c'est vraiment une situation de chaos. Et M. Déby, je pense qu'il est juste ces leviers pour d'abord faire à Paris. Et nous, on espère, sincèrement, on espère que moi, ça fait, c'est Hollande qui m'a fait venir. Mais je pense qu'il n'a pas pleinement joué son rôle, surtout à nous aider à démocratiser le Tchad. Et là, on espère qu'avec avec les changements, les élections qui vont se passer en Libye, c'est en France, j'espère qu'une prise de conscience au niveau politique puisse être exprimée, manifestée pour aider les Tchadiens à se démocratiser aussi. Quoi.
Mais si j'ai bien regardé, je crois que Déby, il est catholique, je crois.
Ou musulman.
Musulman. Oui, et du coup, il est musulman, et puis c'est... Est-ce qu'il a une... Est-ce qu'il cherche à opprimer la population chrétienne au Tchad?
Bon, il y a un problème quand même. Tu vois, au Tchad, il y a un problème entre musulmans et chrétiens. Au début, lui était musulman, il est malin. C'est que lui, pour, il a des discours. Quand il est avec les Français, il a un discours, parce que c'est quelqu'un qui picole, qui parle de l'alcool, il est tranquille. Bon. Et donc, il est tranquille, hein, et il s'en fout, il picole, il a fait la France, etc. Donc, il fait comprendre aux Français que c'est Richard est un pays laïque. Mais quand il vient vers le pays arabe, il fait comprendre aux gens que ah non, mais nous sommes à 65% musulmans, on parle arabe, etc. Les Arabes lui donnent de l'argent. Quand il est avec les Occidentaux, les Américains, il leur fait comprendre que moi je suis laïque à 100%, etc. Mais sur le terrain, tu sens qu'il y a une oppression rampante à l'encontre des chrétiens, etc. La preuve, c'est qu'entre. Moi j'habite dans. Ma famille habite pas loin de la prison du Tchad. Et là-bas, il y a une église catholique qui est là, une grande église qui était historiquement connue. Et nous, quand on était petit, on partait jouer là au ballon, etc. Cette église faisait face à la présence du Tchad. Là, et c'est une église qui dépendait du Vatican. Déby a demandé à ce que c'est comme l'église fait face à la présence. Il dit non, je veux construire une autre église dans un quartier chrétien et que vous allez déloger cette église. Heureusement, il y a une campagne internationale qui a été manifestée. Et le Vatican a dit à Déby, vous n'allez pas. Mais quand même, il a démoli une partie de l'église. Donc ça, c'est une façon qui n'est pas. Pourtant, c'est vraiment, le monument était vraiment apprécié par Andal. Voilà. Mais ça ne peut pas gêner. C'est que même ça vous montre que ça, Déby a une autre vérité. C'est que le fait qu'il veut déplacer ce monument historique, qui est là, qui est apprécié. Moi, je suis musulman de religion, mais je n'avais aucun problème avec la présence. Moi, je me suis opposé à la destruction de ce truc. Parce que je me dis, ça a été quand même un joyau qui symbolique effectivement la laïcité de l'État tchadien. Mais pour Déby, insuieusement, il voulait vraiment que ce monument ne reste pas en face de la présence. Et ça, je n'ai pas compris. Et nous, on continue à nous opposer à ce que ce monument soit délocalisé ailleurs. On dit, il faut que ça reste là. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux. Il y a deux discours. Et malheureusement, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à là, les gens n'arrivent pas. Du point de vue de Paris, ils n'arrivent pas à nous comprendre. On leur fait comprendre que ce type est extrêmement dangereux. Il est vraiment dangereux pour la stabilité, il est pour la cohésion sociale. Et jusqu'à là, le discours ne passe pas à niveau de Paris.
Oui, je voulais savoir, maintenant que vous êtes en France et que vous continuez votre blog, est-ce que vous poussez les jeunes ou même la population tchadienne à se rebeller sur votre blog?
Oui, moi, je relais en fait. Moi, je suis devenu pratiquement l'interface entre les gens de l'opposition, parce que moi, mon blog, c'est un blog que je fais comme une étude d'information, mais aussi de lutte pacifique. Donc, si on m'envoie des communiqués de presse de l'opposition démocratique, des gens de la société tchadienne droits de l'homme, la convention tchadienne droits de l'homme, etc., j'ai relayé ça. Mais appeler les gens à être dans la rue, parce que ça ne relève pas de la vocation d'un journaliste, mais je fais partie d'un acteur quand même indispensable dans la transformation de lutte pacifique qui peut en venir. Mais le choix. Toujours est-il que si on a les moyens, tout à l'heure, j'étais avec votre prof au café et quand je recevais un message du secrétaire général de l'Union syndicale du Tchad, qui n'arrivait pas à m'envoyer un message par mail, il m'a envoyé un message rapidement pour me dire, voilà, plusieurs femmes tchadiennes qui voulaient manifester ce matin ont été arrêtées. La bourse a été envahie par des forces de l'ordre. Donc l'impossibilité, que ce soit depuis Paris, où je lance un appel à à des personnes de sortir, et je n'ai pas de gage ou de garantie à sécuriser ces gens. Tout ce que je peux faire, c'est de demander à la Fédération internationale des droits de l'homme, à l'Amnesty International, de faire produire un comité de presse vers l'arrestation de plusieurs femmes au Tchad ce matin. Quand je suis au Tchad, j'ai remarqué que les journalistes sont... Il y avait des journalistes qui ont disparu au Tchad, en fait, on n'a plus de leurs traces. Après, je suis parti en Tunisie. C'est face à ces constats que j'ai fait de l'intérieur du Tchad que c'était impossible à ce que les journalistes s'expriment. Il fallait les exercer de l'étranger. Et même moi qui suis à l'étranger, j'ai été persécuté. Pour mon cas, par exemple, au même moment où on me spécialisait les 7 du Sénégal, il y avait des journalistes qui ont été arrêtés au Tchad. L'un s'appelait Eric Topona, aujourd'hui il est en Allemagne. L'autre, c'est un journaliste qui s'appelle un directeur de publication de la bagarre. Qu'est-ce qui leur a été reproché? Parce qu'en fait, eux, ils m'ont envoyé des mails. Des informations qui n'arrivaient pas à les développer, à les publier dans leurs journaux locaux, ils ont préféré me l'envoyer à Dakar. Or, moi, dans l'arrestation à Dakar, c'est qu'ils ont réussi à intercepter les mails entre les deux journalistes tchadiens. Donc, les journalistes tchadiens ont fait 3 mois en prison à N'Djamena. La situation n'a pas changé depuis 2013 à nos jours. Bien avant cela aussi, la situation n'a pas changé. Donc, la situation reste quand même inquiétante.
Vous pouvez découvrir le travail journalistique de Makayla Ngebla sur son blog www.makayla.fr. Et si vous voulez répondre à son appel à du matériel agricole à envoyer dans sa région natale qui est très reculée au Tchad et très pauvre et sur laquelle il y a très peu d'informations au niveau journalistique, vous pouvez lui envoyer un mail à nmakaila@yahoo.fr.